Chers auditeurs d'Opéra Agora, bonsoir. Voici donc l'émission Opéra Agora, destinée, comme vous le savez maintenant depuis 4 ans, sur l'opéra, les compositeurs, les grands moments, les temps forts, les grands compositeurs, etc. Avant cela, permettez-moi de vous souhaiter à tous, chers auditeurs, une bonne et heureuse année 2026. Espérons qu'elle soit meilleure que la 25. Car si la musique adoucit les mœurs, il serait bon que certains en écoutât beaucoup. Alors, ce soir, j'ai le plaisir renouvelé de vous présenter mon ami le compositeur d'opéra et, entre autres, de cantates et de musique symphonique, etc. Enfin, un compositeur qui est joué de son vivant, ce qui est quand même assez rare de nos jours. Alors, j'espère qu'il sera joué également après sa mort, qui est loin. Mais bon, c'est déjà bien d'être joué de son vivant. Nous avons déjà fait une émission ensemble, il y a un an ou deux, sur son opéra, qui depuis a été joué plusieurs fois, bien entendu, depuis l'œuvre de Éric Breton, eh bien, a été diffusée dans de nombreux endroits. Et ce soir, eh bien, nous allons en parler sur une forme de cantate qui la tirait justement de son opéra, Le Soleil et les autres étoiles. D'après, bien entendu, deux sources importantes. D'abord, la comédie de Dante, la divine comédie, enfin, que moi je préfère appeler comédie divine, puisqu'elle parle du divin, et non pas divine parce qu'elle serait formidable, mais la comédie du divin. Et puis, une autre source, bien entendu, c'est malheureusement la triste histoire vraie des moines de Tibérine. Voilà, tout cela fondu dans la palette du compositeur Éric Breton, que je salue. Salut Éric, comment va ?
Bonsoir Christian et bonsoir à tous les auditeurs d'Opéra Agora et de Radio Agora. Eh bien, l'année démarre en musique et espérons qu'elle va le continuer. Je suis très très heureux d'être parmi vous ce soir.
Eh bien, écoute, c'est un plaisir partagé et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet car c'est un sujet qui demande une grande attention et puis finalement une connaissance assez spéciale, extrêmement basée sur du symbolisme à côté, bien entendu, de la musique. Alors, la première question que je voudrais te poser, mon cher Éric, c'est comment as-tu procédé pour transformer ton opéra en cantate ?
Alors, excellente question. Effectivement, la gageure, c'était un petit peu d'arriver à rapprocher une durée de 1h45-50 environ pour l'opéra complet, à le rétrécir en une durée de environ 35 minutes, tout en conservant l'essentiel de l'histoire, l'essentiel de la tragédie. Il fallait donc arriver à transfigurer une œuvre qui est étalée sur la longueur en un format extrêmement condensé. Donc j'ai réussi, je pense, enfin je le crois et je l'espère, j'ai réussi à faire cette condensation qui permet de naviguer au sein de toute l'œuvre, d'autant plus que la difficulté était corsée par le fait qu'il fallait trouver une uniformité, une cohérence musicale. Voilà. Il ne s'agissait pas uniquement de tronçonner l'opéra en quelques séquences qui n'auraient eu aucun rapport les unes entre les autres. Donc ça a été un gros travail, mais j'ai réussi. Et il y avait aussi une contrainte supplémentaire, c'était que je passais d'un orchestre symphonique avec harpe, avec percussion et tout ça, à un ensemble de 11 musiciens, dont l'orgue, puisque c'était en partie une coproduction entre l'Opéra du Grand Avignon et Musique Sacrée en Avignon. Donc on était programmé aussi dans le festival de l'orgue. Donc il fallait mettre de l'orgue, ce qui était évidemment une, une contrainte particulièrement intéressante.
D'accord, d'accord, oui, donc il s'agit véritablement d'une vraie transformation, c'est pas simplement prendre un morceau à un endroit et puis le replacer, et puis avec un peu de texte passer au second, non, d'accord, c'est en somme une autre façon complète de revisiter, je dirais, ton opéra. Eh bien, nous allons nous y atteler. Nos auditeurs me connaissent. Je suis donc Christian Segarici, chef d'orchestre, et Nancy, qui est également la metteur en onde, mais qui est musicienne, donc sera à même, bien entendu, de faire renaître dans la mise en onde cette petite transformation, car la dernière fois, il s'agissait de ton opéra au complet. Alors, la première donc, question que je vais te poser, mon cher Eric, c'est, tu as refait donc une orchestration.
J'ai refait une orchestration, et il y avait encore une contrainte supplémentaire que je n'ai pas mentionnée tout à l'heure, qui est la suivante. Étant donné que c'était une coproduction avec l'opéra du Grand Avignon, nous avons eu la chance, l'honneur et la joie de pouvoir compter sur le chœur de l'opéra du Grand Avignon. Et en contrepartie, de 8 solistes, je suis passé à 3 solistes. Donc normalement, on a 8 solistes, 4 dames et 4 messieurs. Et là, j'avais une soprano, un ténor et un baryton basse. Donc, dans les extraits que j'ai choisis pour la version cantate, j'ai aussi retranscrit, réécrit une partie des parties solistes pour le chœur. C'est-à-dire que j'ai attribué au chœur une partie de ce que j'enlevais aux solistes que je n'avais pas. Voilà, ce qui fait que j'ai réécrit non seulement les mélodies, mais je les ai harmonisées, parce qu'évidemment, un chœur, il fallait que j'en profite. D'ailleurs, ça a été tout à mon avantage, parce que ça m'a permis d'explorer des couleurs qui n'étaient pas exactement celle de l'opéra.
D'accord. Alors, somme toute, tu as refait un travail complet.
Oui, on peut dire un travail complet. Disons que je suis parti d'une œuvre qui existait et qui fonctionnait en tant que telle, et j'en ai refait une autre qui, tout en étant dans une grande partie, dans une grande mesure, identique à l'œuvre originelle, est en elle-même une œuvre à part entière.
D'accord. Eh bien, écoute, nous allons commencer à éplucher un peu cette cantate opéra, si l'on peut dire. Alors, la première séquence, donc, était justement attribuée au chœur, hein, un chœur a cappella, qui chantait d'après un texte des Métamorphoses d'Ovide, et qui était en osmose avec les propos de la Genèse, bien entendu, avant la terre et le ciel, il n'y avait que le chaos. L'intention est de placer l'action qui va suivre dans une période intemporelle et dans un lieu incertain. Voilà, puis arrivent les moines, etc., etc. Et alors, dans cette première séquence, donc, toute auréolée de lumière, qui chante ?
Alors, c'est le chœur en priorité, hein, le chœur donc qui est dans l'opéra, c'est un chœur qui normalement se trouve en coulisses.
D'accord.
Et là, bien évidemment, nous sommes dans une forme concert, donc le chœur est sur scène. Et j'ai choisi, parce que il faut mentionner aussi que j'ai écrit également le livret, donc le livret de l'opéra et de ma propre plume. Mais justement, j'ai choisi cette courte phrase tirée de d'Ovide, les Métamorphoses, pour situer justement l'action dans un lieu qu'on pourrait qualifier d'utopique. C'est-à-dire que je voulais l'extraire de toute référence religieuse ou référence de lieu. Voilà, je voulais un petit peu être plus dans le symbolisme que d'accord, dans la description. Donc, ce chœur commence par chanter, et immédiatement après, dans une cassure véritablement de rythme et d'ambiance, interviennent les moines. Et il y a cet ostinato qu'on va entendre, ostinato des cordes graves, sur lesquelles les moines s'interpellent et vont décrire ce qui est leur mission.
D'accord, parce qu'ils se sentent une mission.
Justement, c'est ça le parti pris que j'ai pris, c'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui vont subir leur sort, si on peut dire, ce sont des gens, au contraire, qui vont être partie prenante d'un destin qu'ils ont eux-mêmes cherché et que, dans une certaine mesure, ils contribuent eux-mêmes à forger.
D'accord, donc rien à voir avec une retraite monastique, c'est pas du tout ça. En réalité, ils sont là pour faire quelque chose qu'ils estiment sacré.
Voilà, exactement, on est dans le sacré, nous avons affaire à une communauté d'hommes qui vont essayer de maintenir cet engagement vers le sacré, envers le sacré, ils vont essayer de le maintenir jusqu'au moment ultime.
D'accord. C'est d'ailleurs un peu l'histoire de ces moines de Tibérine.
Ah oui, tout à fait.
Qui étaient là dans cette optique, qui n'étaient pas venus simplement s'implanter dans un monastère pour cultiver le jardin comme Candide. Non, ce n'est pas ça. Ils étaient là pour faire une action.
Voilà, ils étaient là pour faire une action. D'ailleurs, ça va être dit dans cette première séquence que j'ai conservée. À un moment, ils vont dire « Méditation et prière participent à l'équilibre du monde ». C'est-à-dire que le monde ne fonctionne pas uniquement par ceux qui sont dans l'action, ceux qui sont dans la création, mais il fonctionne aussi par ceux qui équilibrent tout cela par la méditation, par la prière, par la réflexion, c'est-à-dire en fait par la spiritualité, par le travail de l'esprit.
Très bien. Eh bien, écoute, on est lancé, on va écouter cette première séquence.
Thank you.
effectivement, je reconnais, comme j'ai écouté ton opéra en entier, bien entendu, je reconnais la musique, mais elle est transfigurée, complètement transfigurée par cette nouvelle orchestration qui est, me semble-t-il, beaucoup plus ascétique. J'ai l'impression que tu as voulu chercher un maximum de sobriété pour faire ressortir l'essentiel. L'essentiel, c'est quand même ce qu'ils disent, le message. Et peut-être, le climat musical est peut-être un peu moins recherché que dans une palette orchestrale, comme ça avait été le cas.
Oui, alors, il faut dire aussi que c'est un petit peu les circonstances qui m'y ont amené. Là, j'ai beaucoup moins d'effectifs. Et nous sommes en concert, donc il a fallu supprimer à la fois du monde, si on peut dire, mais il a fallu aussi remplacer ce qui était traduit par l'intention scénique, il avait fallu le remplacer musicalement. Donc, d'un côté, il a fallu que j'attribue au chœur des répliques qui normalement étaient chantées par certains solistes, mais il a fallu justement que je retraduise ça aussi par une orchestration qui passait de environ 40 à 45 musiciens à 11 musiciens. Voilà. Oui. Donc on est dans quelque chose qui est effectivement un petit peu plus méditatif, un petit peu plus resserré, voilà, puisqu'on n'a pas évidemment aussi la dimension scénique, la dimension visuelle, les éclairages, ainsi de suite.
D'accord. Finalement, nous avons là la substantifique moelle de l'ouvrage. Hein,
voilà,
d'accord.
On peut le dire comme ça. Excellente image.
D'accord. Alors, écoute, on va continuer. Et puis, arrive maintenant donc une servante, unique personne extérieure, qui a accès dans ce domaine réservé des moines. Les femmes avaient accès au monastère.
Alors, pas réellement, mais dans mon histoire,
ah, dans
oui.
Ton histoire, oui.
Oui, parce que lorsque j'ai commencé, alors là, je reviens à la genèse de l'opéra proprement dit. Lorsque j'ai commencé à travailler sur cette idée qui me tenait à cœur depuis des années, d'ailleurs, c'était un sujet qui m'intéressait énormément, je me suis quand même subitement rendu compte que dans un monastère, comme tu viens de le faire remarquer avec justesse, en principe, sauf si c'est un monastère de monial, voilà, mais c'est une autre histoire. En l'occurrence, c'était des hommes. Je me suis dit, dans un opéra, en principe, il faut quand même qu'il y ait des rôles féminins.
Ah oui, c'est
donc, je suis arrivé à la conclusion que une des meilleures manières d'introduire un rôle féminin, c'était peut-être justement d'introduire une servante qui, elle, serait venue vaquer à quelques occupations domestiques à l'intérieur du monastère, mais aussi aurait eu une existence propre à l'extérieur. Et donc, en tant que habitante du village, elle est à même de voir ce qui se passe déjà à l'extérieur du village, c'est-à-dire les violences, les attentats, les incendies, toutes sortes de choses. Et donc, c'est elle qui va le rapporter à l'intérieur. Ce qui permet de solutionner une question, c'est comment faire pour que les moines soient au courant du danger qui se resserre un petit peu autour d'eux. C'est la servante qui se charge de ces messages, si on peut dire.
C'est la Matahari.
Voilà.
De Tibérine, d'accord. Voilà. J'espère qu'elle ne va pas finir comme Matahari avec 12 balles dans le corps.
Elle parvient à survivre à la tragédie, mais justement, le fait qu'elle parvienne à survivre à cette tragédie fait d'elle un témoin de toute cette histoire. Et donc quelqu'un qui va aussi permettre de poursuivre l'œuvre, de poursuivre l'intention, de poursuivre aussi ce cheminement d'idées qui fait qu'il y a toujours des hommes et des femmes qui maintiennent l'espoir.
D'accord. Et alors, naturellement, elle chante.
Ah, mais
évidemment. Elle chante et elle dialogue avec le cœur, elle dialogue, et puis alors là, véritablement, on a l'impression que ça sert un petit peu de récitatif, puisque le texte, maintenant, nous amène véritablement, comme dans un récitatif d'opéra, dans le drame, c'est-à-dire la dramaturgie, l'action, des cris, des pleurs dans le lointain, qui sait, peut-être le vent. Écoutons cette deuxième séquence. Évidemment, la voix féminine, je trouve, apporte quelque chose, un équilibre musical qui est indispensable, un équilibre musical qui est indispensable à la phonie, même d'une cantate où quelquefois les paroles sont en latin et on les connaît sans approfondir le texte, on sait exactement que c'est une prière très 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 souvent. Mais là, ce n'est pas le cas. Là, effectivement, cette servante, elle a cette importance, je dirais, d'être le lien entre l'extérieur, l'intérieur, entre le profane et le sacré. Et puis alors, maintenant, dans la séquence suivante, arrive le prieur. Le prieur qui est un personnage clé et qui s'interroge sur l'attitude à prendre face au danger. Alors, le doute, que doit-on faire? Est-ce qu'on doit reculer devant une menace terrible, probablement mortelle? Mais, après tout, qui sommes-nous? Nous sommes peut-être les chevaliers de l'impossible, les amoureux de l'absolu. Et la retour, là maintenant, retour de la servante. Les événements sanglants, eh bien, alentour, se sont précipités. Ça nous fait penser, malheureusement, aujourd'hui, là, en janvier 2026, à ce qui se passe en Iran. Tous les jours, des milliers et des milliers de morts. Et je pense que nous devons quand même l'évoquer, bien que nous soyons dans une émission musicale, culturelle, mais la culture ne peut se passer d'humanisme, bien entendu, et personnellement, je trouve scandaleux ce qui se passe en ce moment, ce monde terrifiant. Le cœur des villageois décrit les massacres. Ils sont comme des porcs dans l'ordure, comme des chiens enragés. Qui pourra jamais étancher leur soif ? Terrible question. Et ce prieur qui est un baryton, chante librement maintenant, comme des stances, je dirais. Ça me fait penser, tu vois, à des stances. Et d'ailleurs, je n'en ai jamais parlé, ça fait 4 ans que je fais cette émission, et naturellement, il n'est pas le lieu pour moi de parler de l'association que je dirige, qui s'appelle Vocalissimo, et avec laquelle je fais des concerts dans les églises avec des semi-professionnels, et nous faisons beaucoup de concerts. Mais bon, maintenant, au bout de 4 ans, vu que je n'en ai jamais parlé, eh bien, je vais un petit peu en parler, simplement en disant que je vais prendre cette séquence numéro 3, la séquence du prieur, pour la mettre au programme de mes concerts. Et comme j'en ai pas mal, environ un par mois, dans les églises des Alpes-Maritimes et du Var, nous ferons entendre cette belle musique.
J'en suis très, 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 très touché, très honoré, et j'ai hâte d'entendre ce que ça va donner dans un contexte différent.
Écoute, tu viendras y assister en direct.
Avec grand plaisir.
Tu seras l'invité. Voilà. Alors, maintenant, place à la musique. Écoutons donc cette nouvelle séquence. Écoutons.
Déjà l'ombre s'éteignant, vous fait sentir le soleil se fait place à d'autres ombres et à soigner nos prières. Nos voix semblent se perdre dans le soir. Vous qui êtes revivants,
bien, nous avons écouté cette séquence numéro 3. Et puis maintenant, passons à la suite, la séquence numéro 4. Les moines réaffirment la solidité de leurs convictions. Soyons fidèles, fidèles comme l'aube qui ramène le jour. Alors là, évidemment, c'est la comédie de Dante. C'est la comédie de Dante. Cette comédie qui en réalité, comédia en italien, ça ne veut pas dire la comédie au sens où nous l'entendons, nous, mais simplement qui est une dramaturgie, une pièce, on dirait maintenant, une pièce de théâtre. C'est le XIIIe siècle. Et on ne peut s'empêcher d'imaginer qu'en même temps que Dante était en train de mettre en enfer, en paradis, en purgatoire, les biens des personnages qui ont marqué profondément son époque, en même temps, exactement, eh bien, Urbain II envoyait la première croisade. C'est fabuleux, ça, hein, quand même, ce moment où la chrétienté était partie, comme ça, pour délivrer le tombeau du Christ.
Oui, pour délivrer le tombeau du Christ, et puis aussi pour essayer de pacifier un petit peu une noblesse un petit peu batailleuse. Bon, il y a eu de multiples théories sur cette question, mais c'est sûr que c'est un moment charnière dans l'histoire de l'Occident, de la chrétienté, et c'est aussi ça qui va donner, entre autres, mais c'est ce qui va donner aussi la Renaissance. C'est à partir de ce renouveau qui va arriver depuis la Terre Sainte, depuis le contact avec les Sarrasins, ce qu'on appelait les Sarrasins à l'époque. Et ça va être un grand tournant. Et Dante est en effet le grand spectateur de toute cette période. Et lui, non seulement il relate, mais il anticipe dans tout ça, avec Pétrarque qui va arriver aussi, ainsi de suite. Et donc, dans tout ce livret, j'ai essayé un petit peu de rédiger les textes, les paroles qui vont être chantées, un peu dans l'esprit de cette Divine Comédie. Voilà, c'est pour ça qu'effectivement, si la Divine Comédie n'inspire pas l'histoire de Le Soleil et les autres étoiles, la Divine Comédie inspire beaucoup la manière dont je me suis exprimé dans le texte, et donc, par voie de conséquence, dans la musique.
Bien entendu, car effectivement, je pense que c'est un lieu d'inspiration tout à fait religieux, humain, profane, quelquefois même laïque, je dirais, avant l'heure. Il y a tout là-dedans, et suivant la place attribuée par Dante à tous ces individus, oui, depuis la pauvre Francesca da Rimini, qui a beaucoup inspiré Tchaïkovski. Oui. Hein. Il en a tiré vraiment un poème symphonique fabuleux, jusqu'au Manfred de Schumann, oui, et d'autres personnages comme ça, parce que non seulement dans cette œuvre grandiose de Dante, il y a bien entendu la dramaturgie avec la morale de Dante, mais il y a une source musicale. N'oublions pas que ça a été fait en vers, et qu'il y a une véritable musique des vers, surtout en italien, et en italien littéraire. Et ça, je pense que tu as dû te régaler, toi qui parles italien couramment, tu as dû te régaler de prendre des sonorités italiennes pour certainement les retransmettre un peu.
Exactement, ça a été très important, parce que je me suis aperçu depuis un certain temps, vu qu'il y a un certain temps que je pratique cet exercice, que la musique est déjà contenue dans le texte. Voilà. En fait, mettre en musique du texte, ça consiste principalement à trouver l'architecture musicale qui est dans le texte. Chaque texte a son propre rythme, ses propres assonances, ainsi de suite. Et tu fais très bien de parler justement de la musicalité du texte de Dante, parce que d'abord, ce sont des endécasyllabes, c'est-à-dire des vers de 11 pieds, et dans lesquels il y a ce qu'on appelle la terza rima, c'est-à-dire que la rime tierce, c'est quelque chose d'un petit peu compliqué qu'on ne va pas passer du temps à expliquer à nos auditeurs, mais en tout cas c'est quelque chose qui fait que quand on lit le texte de Dante, il y a immédiatement une espèce de musique qui se met en marche, et même si effectivement mon texte s'en éloigne énormément, j'en ai conservé un petit peu, dans une certaine mesure, l'inspiration. Il y a juste une chose aussi sur laquelle je voudrais revenir, c'est que tout à l'heure, tu as parlé, cher Christian, du côté laïque de Dante. Et c'est quelque chose d'assez très très juste, parce que par exemple, à la fin, quand il arrive au paradis, dans les moments ultimes du chant, ce qu'on appelle le chant du paradis, qui est-ce qu'il retrouve ? Il ne retrouve pas Dieu, il retrouve Béatrice.
Évidemment. Voilà.
Et donc, il y a quelque chose, après avoir passé pratiquement toutes les étapes de la montée vers le firmament, qu'est-ce qu'il retrouve ? L'amour humain, et il retrouve un petit peu son état d'humanité profonde. Voilà. Alors qu'on aurait pu penser qu'à la fin, il va s'évaporer dans...
dans les béatitudes.
Dans les béatitudes.
Mais tu sais, ça me fait penser... Tous les grands, Dante c'est un très très grand bien entendu, ça me fait penser aussi à Mozart et à la flûte enchantée. Et la flûte enchantée de Mozart, si tu veux, à la fin, c'est Pamina qui entraîne Tamino vers le savoir, vers l'humanisme. Mmh. Et d'ailleurs dans la comédie de Dante, tout comme Papageno n'a pas droit lui à aller dans le temple, Virgile ne peut pas monter là-haut, il ne peut pas monter. Il s'arrête au purgatoire, et c'est Béatrice elle-même qui arrive là, l'apparition triomphale de Béatrice. Voilà. Quel chef-d'œuvre incroyable.
D'ailleurs, le choix de Virgile comme initiateur de Dante est aussi très significatif, car si ça avait été quelque chose d'exclusivement religieux, Dante aurait pu choisir Saint-Pierre.
Évidemment.
Voilà.
Ou le Christ en personne.
Ou le Christ en personne, voilà, bien évidemment. Mais là, justement, il choisit un personnage qui, lui, est éminemment laïque, puisqu'il est antérieur au christianisme, au message du Christ.
Complètement. C'est une œuvre, je pense qu'on en mesure tous les jours la grandeur de ce texte et l'importance qu'il a. Et je ne suis pas étonné que, je te connais bien, que tu te sois plongé là-dedans. Écoutons cette très très belle quatrième séquence.
Thank you.
passons à la cinquième séance. Rien ne peut détruire l'élan irrésistible de la fraternité millénaire des justes. La chaîne ne rompt pas. C'est le message de Dante, encore et encore et encore lui. Alors, là, j'aimerais que tu nous donnes, toi, si tu veux bien, avec la connaissance que tu as, justement, de l'orchestration, les sons, comment... J'ai trouvé d'ailleurs cette scène finale, cette séquence finale, différente au point de vue de la matière sonore de ce que tu avais présenté jusque-là.
Oui, alors, c'est exact. Il faut savoir que normalement, dans l'opéra, cette séquence finale, qui dure d'ailleurs quasiment un quart d'heure, fait suite à une très longue séquence qui est exclusivement orchestrale, parce que c'est la séquence où les moines vont être assassinés, véritablement. Et dans l'opéra, dans la version opéra, j'avais préféré rendre ça par une espèce de métaphore exclusivement musicale pour ne pas avoir à imposer sur la scène la scène de la mort qui me paraissait de toute façon impossible à restituer réellement si on voulait rester fidèle à cette notion de sacré, de spiritualité. Voilà, donc là, dans la version cantate, nous passons directement de l'affirmation des moines qui proclament leur fidélité à leur engagement, le fait qu'ils vont aller devant l'instance suprême avec la certitude d'être dans leurs droits et d'être dans la ligne directe de leur engagement, nous allons immédiatement arriver sur la séquence finale où ils sont déjà théoriquement disparus de ce monde. Donc c'est le cœur des villageois qui va commenter toute cette action qui vient de se passer et qui est en train aussi de se passer, puisque là, le texte va tourner pratiquement en boucle sur tout le temps les mêmes mots. Non, la chaîne ne rompt pas, non, le grain ne meurt pas, il attend l'aube d'un jour nouveau, ainsi de suite. C'est-à-dire que ça va être la proclamation du fait que ce qui sera dit à la fin, c'est l'amour qui meut le soleil et les autres étoiles, qui est exactement la phrase du dernier chant de la Divine Comédie. Et donc, il y a cette certitude que, de toute façon, le mal ne gagnera jamais. C'est toujours les forces de la vie, c'est toujours donc l'amour, la force de renaissance, qui va avoir le dessus, car rien ne pourra l'annihiler totalement, voilà. Et donc, il va y avoir un petit peu cette espèce de mélodie qui va tourner en boucle avec le cœur qui va monter de plus en plus pour arriver jusqu'à cette séquence où c'est uniquement les sopranes qui vont dire ça, car c'est l'amour qui meut le soleil et les autres étoiles.
Oui, et en ce sens, tout d'un coup, je pense à une autre œuvre, un peu, mais de loin, la même tendance, bien entendu, c'est l'œuvre de Bernanos et de Poulenc, Dialogue des Carmélites, où là, on voit la décapitation par la Révolution française de la religion, hein, qui est représentée par ces carmélites. Mais il n'y a pas ce message universel humaniste dans cette œuvre que j'ai, ça m'a intéressé, mais moins parce que justement, il me semblait, en tout cas moi c'est ce que j'y ai trouvé, que il n'y avait pas ce côté universel, que c'était réservé finalement, seul Dieu existe véritablement dans la certitude absolue et dans la certitude de la religion chrétienne. Là, nous dépassons complètement cela. Il y a une espèce de foi sacrée, universelle, comme celle de Dante.
Exactement, exactement. Alors, en fait, mon idée principale, qui est en filigrane pendant toute la séquence finale, mais qui est en fait sous-entendue dans la totalité de l'œuvre, ça pourrait se traduire par la maxime « ordo ab chaos ». C'est-à-dire que derrière le chaos arrivera toujours l'ordre. Je suis très modestement et très humblement persuadé que la finalité de la création, la finalité de ce qu'on peut appeler le monde, l'univers, c'est de toute façon de revenir vers une spiritualité complète. Le monde est né de l'esprit et il retournera à l'esprit. Donc, dans cette optique-là, c'est toujours l'ordre qui finira par succéder au chaos. Et on le voit dans pratiquement toutes les traditions, toutes les religions, toutes les mythologies, il y a toujours cette lutte entre le chaos, qui veut systématiquement prendre le dessus, et que ce soit les dieux, que ce soit les hommes, que ce soit d'autres créatures, il y a toujours la volonté de revenir vers l'ordre. C'est aussi un petit peu l'histoire d'Ulysse qui veut rétablir l'équilibre après ce chaos de destruction de l'Iliade, de la destruction de Troie, ainsi de suite. Voilà. Et dans une certaine mesure, c'est aussi le message du christianisme qui est de revenir vers l'amour. Et moi, je le vois au-delà de ça. Donc, je pense que le monde va, même s'il n'en a pas beaucoup l'air en ce moment. Le monde, espérons-le en tout cas, va vers le monde de l'esprit, vers une résolution par l'esprit, par la spiritualité.
Eh ben, écoute, j'espère que tu seras entendu par les essences divines qui dirige cet univers. Écoute, pour l'instant, nous te félicitons pour ton travail que l'on suit attentivement et qui, je me réjouis que tu sois joué de plus en plus. Tu es un des rares compositeurs français, surtout à faire dans le lyrique, dans l'opéra. Et puis, bon vent à toi, mon cher Eric. On aura l'occasion de reparler de tout cela. Merci à notre cher Nancy qui va mettre tout ça aux petits oignons dans l'émission. Et rendez-vous, chers auditeurs, le mois prochain. Bonsoir.
Bonsoir.